au quotidien avec Clotilde Seille.
Bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin? Nous sommes le mardi 18 août 2015 et je suis là comme tous les jours sur les ondes de Canal M pour vous partager ce que j'ai trouvé dans les journaux du jour, dans les quotidiens du jour, les principaux quotidiens du Québec. Et je suis accompagnée de Mathieu Tessier une nouvelle fois ce matin. Alors, parmi les sujets trouvés ce matin, l'échangeur turco, le naufrage du 780 Saint-Rémy. Vous savez qu'il a fallu renvoyer énormément de gens, exproprier énormément de gens, et c'est de ce naufrage-là dont il est question dans Le Devoir, et aussi du naufrage, du déclin des Belugas. L'agacé dans la presse, je ne serai pas candidat, il nous explique pourquoi, mais apparemment il se fait courtiser en tant que journaliste par tous les partis. Taxi, pour ne pas se faire mener en auto par Uber, c'est un édito. La fée des dents qui est très généreuse au Québec apparemment, nous on dit la petite souris en Europe. Et puis également aujourd'hui dans les journaux du jour, un site pour vendre ses restants, une lointaine galaxie, l'idolâtrie de l'insignifiance. Et puis aussi les cerbères des premiers ministres. Nous irons bien sûr en région où un Indien nous parle, un Amérindien, un Autochtone. Donc on continue encore souvent de leur demander, notamment quand ils cherchent du travail, s'ils vivent dans un tipi. Expropriation à Mégantic, apparemment les gens étaient au courant depuis 2014. Bien sûr, les élections fédérales, on en parle au début de la deuxième heure. On parlera de sport et de ces héros de l'Ironman, mais les héros inconnus, ceux qui mettent 16 heures, 17 heures pour conclure et qui arrivent juste avant minuit quand les autres sont arrivés 10 heures plus tôt. À l'international, explosion à Bangkok, explosion en Syrie. L'ONU s'est déclarée horrifiée par tout ça. Et puis, quelques opinions, notamment sur une boîte postale, sur les boîtes postales communautaires et la maison Alcan. Mary Poppins en art et spectacle, le Marvel des super-héros en chair et en os, Stevie Wonder, et puis Star Trek aussi, le paradis des avocats, un excellent papier dans Le Devoir. Et on finira cette émission par le bulletin du handicap. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Clotilde Seille.
Alors, en ce 18 août, où?
Oui.
Au Québec, août en France 2015.
1954, Washington et Ottawa s'entendent pour réaliser la voie maritime du Saint-Laurent, qui sera inaugurée en 1959.
Ah oui, je pensais que c'était bien plus tôt que ça, moi.
Moi aussi, je suis toujours surpris.
Oui, ouais, moi aussi, très. OK.
1825, le premier Européen à atteindre Tombouctou. Je trouve ça intéressant.
Oui, c'est vrai.
1824, l'ouverture du premier canal de la Chine et l'arrivée de l'intendant Jean Talon à Québec en 1670.
Le premier canal de la Chine, rappelez-moi l'année?
1824.
Ah!
Et son nez, Roman Polanski, Robert Redford et Carole Bouquet, un 18 août. Tous à des années différentes.
À des années différentes, évidemment.
Ils sont décédés Honoré de Balzac et Genghis Khan, l'empereur mongol.
Ah ben oui. Il n'était pas très gentil, le monsieur.
Il avait une idée fixe.
Ouf. Merci beaucoup, mon petit.
Ça fait plaisir.
Alors, à la une du Devoir, ce matin, en ce mardi 18 août 2015, dette, les étudiants sont inquiets. Élection fédérale à Montréal, Kenny mise sur les communautés culturelles, nous dit-on. Discours haineux, la ministre Vallée défend son projet de loi qui pourrait être contesté en cours. On évoque aussi à la une du Devoir ce matin cette murale, la mémoire sélective à Montréal-Nord. Montréal-Nord qui ne souhaite pas intégrer la mort de Freddy Villanueva à cette œuvre commémorative et ça fait réagir beaucoup de monde. On en parle pendant le bloc art et spectacle d'ici une heure et quart. Le gros titre, mais je vous dirais plutôt la photo principale, c'est ce carnage qui a eu lieu encore une fois en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté un premier plan pour la paix soutenu par tous ses membres après les raids meurtriers menés par le régime syrien. C'était dimanche avant-hier. Des dizaines de civils sont morts dans le bombardement d'un marché très fréquenté dans le fief rebelle de Douma. Et la photo nous présente un homme gravement blessé qui est extirpé des décombres par quelques-uns de ses camarades. Alors, on revient là-dessus, bien sûr, à l'international aussi, en deuxième heure de cette émission. Procès Duffy, un cas de réglé, deux à finir. Selon des courriels, les conservateurs ont orchestré complètement le stratagème. C'est du moins ce que nous apprend Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa, qui nous dit que l'entente secrète conclue entre Mike Duffy et le bureau du Premier ministre n'a pas été exigée par le sénateur, mais plutôt concoctée par les conservateurs. La preuve, selon l'avocat de l'ex-recrue conservatrice, un courriel dans lequel Nigel Wright se réjouit d'avoir enfin réglé le cas de M. Duffy. Voilà, donc ça fait la une aussi. Et puis à la une, et je vais commencer par cela ce matin, l'échangeur turco et cet édifice que l'on voit qui doit laisser sa place bientôt à une nouvelle bretelle de l'échangeur turco, un édifice constitué presque uniquement de lofts, énormément d'artistes vivaient là-dedans. Évidemment, ça ne coûtait pas trop cher. Ils ont été expropriés. Et certains nous racontent qu'à peine ils avaient sorti leurs valises et leurs meubles, que la grue, la machine rentrait déjà dans les murs pour tout démolir. Évidemment, c'est un souvenir difficile. Et c'est pour cela d'ailleurs que ça s'intitule « Le naufrage du 780 Saint-Rémy, l'échangeur turco », un texte de Valérian Mazzato. Je vous dis ça dans quelques secondes. En juillet 2011, Le Devoir vous emmenait à la découverte des résidents du 780 rue Saint-Rémy dans le quartier Saint-Henri, un bâtiment presque centenaire que Québec devait raser dans le cadre de la reconstruction de l'échangeur turco. Eh bien, l'an dernier, nous dit Valérian Mazzato, nous avons suivi le déménagement de ces derniers occupants. Alors que le démantèlement est bien entamé, on clôt l'histoire de ce bâtiment pas comme les autres. Le vieux bâtiment fatigué est désormais cerclé de grilles qui en interdisent l'accès. Ses fenêtres brisées, ses murs recouverts de graffitis, la végétation qui l'entourait presque entièrement rasée et amassée dans le coin nord-est. Au sud s'élèvent de hauts tas de gravier noir et des roulottes de chantier. À l'ouest, la nouvelle bretelle de l'échangeur est déjà bien avancée. D'ici quelques mois, à la fin octobre 2015, le 780 aura définitivement disparu pour céder la place à la nouvelle voie rapide de l'échangeur. Impossible désormais de visiter le chantier et l'intérieur du bâtiment alors que les équipes de KPH Turco, le consortium choisi par le gouvernement pour mener à bien le chantier de Turco, s'activent à éplucher méthodiquement l'intérieur du bâtiment pour le recycler. On ne va pas le démolir avec une boule ou le dynamiter, précise Benoît Lachance, porte-parole du ministère des Transports, le MTQ. C'est un démantèlement sur une longue période qui va nous permettre de recycler au moins 80% des composants. De l'acier des tuyaux à l'isolant, tout ou presque pourra être réutilisé, promet le MTQ. Le béton concassé servira aux fondations du nouveau turco et la poussière des briques aux horticulteurs. Tu étais poussière et tu redeviendras poussière. Toute une symbolique pour ce lieu de vie qui abritait des dizaines de locataires originaux et créatifs depuis 1998. Alors qui sont-ils ces gens-là? Eh bien même après plus d'un an, personne ne s'est vraiment remis de ce déménagement forcé. Michel Charbonneau et Lorraine Élémente, les anciens occupants du 359 à la tête du mouvement anti-expulsion, habitent désormais à La Salle dans un 4,5 deux fois plus cher que leur ancien logement. On a reçu une compensation financière trois fois moindre que ce qu'on espérait, déplore Michel Charbonneau. On est les naufragés du 780, plaisante-t-il, amer. Personne ne prend en compte les dommages psychologiques, l'effet de vide incroyable, le deuil de perdre tous ses amis d'un coup. Notre couple s'en est ressenti, ça nous a détruits. Après 23 ans de vie commune, les deux anciens botanistes du 780 occupent désormais des appartements séparés. Alors s'arranger ou prendre les devants, c'est ce qu'avait décidé de faire Kate Engelhardt, peintre, tatoueuse et propriétaire depuis 2 ans d'un ancien garage reconverti dans Côte-Saint-Paul. Quand Le Devoir l'a jointe au téléphone, elle était successivement en train de creuser un trou puis d'étendre du crépi sur le mur de la ruelle. 2 ans de travail pour se construire un espace de vie à la hauteur du 780, même si ça ne sera jamais vraiment pareil. Elle dit « Le loft nous manque, on le regarde, puis on a de beaux souvenirs. On était une petite société, on avait un petit voisinage. » Elle dit « Je suis beaucoup plus seule maintenant, même si je connais mon voisinage ici et que je jase avec tout le monde. On est sortis de là, mais le cœur y est encore, c'est incroyable l'impact. » Au moment de l'expropriation, la jeune artiste avait même peint un tableau prémonitoire ou presque. La fin du bloc, une toile bleue avec une boule qui démolissait le bâtiment. Alors, le projet des bassins du Nouveau Havre dans Griffintown réservera 20% de ses habitations au logement social et communautaire et priorité sera donnée aux anciens résidents du 780. Mais force est de constater que le projet semble stagner depuis plusieurs années. Le MTQ s'est engagé à contribuer à hauteur de 14,5 millions au projet, mais aucun échéancier de construction n'a été mis en place. On poursuit les discussions avec les différents partenaires, se borne à commenter M. Lachance. Michel Charbonneau en tire un commentaire laconique. La croisière s'amusait, mais aujourd'hui, les passagers s'ennuient. Puis dans les manchettes du jour à la une du Devoir, aujourd'hui, on parle du déclin des belugas et du fait qu'Ottawa veut cerner les causes. La survie de l'espèce est en jeu alors que de nombreux décès ont encore une fois été recensés cette année. Alexandre Shields écrit « Pêche et Océan Canada entend commander une étude dans le but de mieux comprendre les impacts des différentes menaces qui pèsent sur les belugas du Saint-Laurent », a appris le Devoir. Pendant ce temps, on continue encore cette année de compter les carcasses sur les rives de l'estuaire. Un peu plus d'un an après avoir autorisé des travaux de forage en plein cœur de la pouponnière de l'espèce à Kakuna, le gouvernement fédéral souhaite maintenant obtenir une analyse de sa viabilité. Fait à noter, le ministère a choisi d'offrir ce contrat à l'externe au lieu de le confier uniquement à ses propres experts. Un appel d'offres a d'ailleurs été lancé en ce sens le 22 juillet dernier. Ce ne sont pas les problématiques qui manquent pour cette espèce. Il a notamment été démontré que la circulation maritime constitue une source de dérangement considérable pour les belugas. Or, leur habitat estival est situé dans les eaux où passent de nombreuses embarcations, des bateaux de plaisance au cargo. C'est le cas, par exemple, dans l'embouchure du Saguenay. Les chercheurs mettent aussi en lumière la nécessité de mieux comprendre les impacts d'une diminution des stocks de harengs, une proie pour les belugas, mais aussi de l'accumulation de certains agents contaminants dans les animaux. Le recul des glaces dans le golfe pourrait également nuire aux femelles gestantes durant les mois qui précèdent la naissance de leur veau, un phénomène qui pourrait d'ailleurs prendre de plus en plus d'importance en raison des bouleversements climatiques qui frappent le Saint-Laurent. Il semblerait qu'on ait encore découvert malheureusement plusieurs carcasses de belugas échouées et morts sur les rives du Saint-Laurent depuis quelques mois. La caricature de Garnotte ce matin. Nous sommes dans le bureau, dans le cabinet de médecin de M. Couillard qui a remis sa chemise blanche et le stéthoscope dans sa poche. Il a une seringue à la main et sur son bureau, il y a une petite bouteille sur laquelle il est écrit « anti-référendum » avec la tête de M. Péladeau. Et M. Couillard qui est en train d'essayer sa seringue et on voit sortir de la seringue, non pas des gouttes d'eau, mais oui, des gouttes d'eau, mais en forme de feuilles de lys du Québec bleu. Et M. Couillard qui nous dit « Je suis à mettre au point un vaccin contre le radicalisme souverainiste ». Alors, à la une de la presse ce matin, Patrick Lagacé, c'est ce qu'on nous annonce, qui nous a pondu une chronique bien sentie où il nous dit qu'il a été pressenti, lui, trois fois par autant de partis politiques différents pour devenir candidat, pour devenir député. Chaque fois, il a dit non, il nous explique pourquoi. Poste Canada, le combat d'une Montréalaise. La manière Coderre fait-elle boule de neige, une Montréalaise a tenté de bloquer l'installation de boîtes postales, mais sans marteau-piqueur. On rappelle que samedi dernier, Monsieur Coderre n'y est pas allé de marteau-piqueur mort, ou de main morte si vous préférez. Bref, toujours est-il que cette femme-là a fait un sitting sur le lieu où on devrait venir installer ça, autrement dit, sur son jardin. Dans son jardin, littéralement, dans sa cour. Je vous parle de ça en deuxième heure de l'émission aussi. À la une, Marvel Universe Live, des super-héros s'invitent à Montréal. Wolverine, Captain America, Spider-Man et compagnie se déploieront au Centre Bell dès jeudi. On promet tout un show. À suivre en deuxième heure de l'émission, comme d'ailleurs cet attentat à la bombe en Thaïlande, Bangkok est sous le choc. Au moins 21 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées dans cet attentat qui a été commis dans le centre de la capitale thaïlandaise hier. Il y a bien sûr un compte-rendu que je vous lirai également en deuxième heure. Et puis, exclusif, il en sera question aussi, les écoles au Moyen-Orient, le Canada prié par l'ONU de rétablir son financement. Maintenant, le clin d'œil de Stéphane Laporte. Agenda de campagne électorale. Il fait tellement chaud que les 5 chefs seront au Beach Club de Pointe-Calumet. Vous savez, c'est ce club en ce moment qui attire toutes les grandes vedettes. Et à la une de la presse, et c'est là-dessus que je vais revenir tout de suite, c'est une exclusivité, Uber, qui est prête à payer une taxe spéciale, qui propose de verser à Québec une taxe de 10 sous par course pour l'utilisation de son service UberX à Montréal. En revanche, l'entreprise de covoiturage souhaite fonctionner en toute légalité. Ça donne lieu à un papier et à un éditorial d'Ariane Kroll. Je vous lis ça tout de suite. Alors, on voit en photo le directeur d'Uber à Montréal qui s'appelle Jean-Nicolas Guillemette, qui a donc fait cette proposition. Et dimanche, le premier, donc une proposition de payer une taxe hein, de 10 sous par covoiturage, par course, appelons ça comme ça. Le premier ministre Philippe Couillard s'est pour la première fois dit ouvert du coup à l'idée de légaliser les services de transport semblables à Uber, dans la mesure où la réglementation favorise une compétition juste face à l'industrie du taxi traditionnel. C'est une bonne nouvelle, on est flexible. On veut démontrer notre bonne foi, affirme le directeur général d'Uber à Montréal, Jean-Nicolas Guillemette, en entrevue avec la presse. Le but, c'est de trouver un terrain d'entente qui va correspondre à ce que souhaite le Québec. Ariane Kroll, sur le sujet d'Uber, signe un éditorial ce matin, dont voici de larges extraits. Elle dit, attention quand même, hein, arrêtons de parler d'économie du partage, un terme auréolé d'angélisme qui n'a rien à voir avec la réalité d'Uber, qui est quand même évalué à plus de 50 milliards de dollars américains à sa dernière ronde de financement. 50 milliards de dollars américains, c'est ce que ça vaut Uber. Tu sais, on a l'impression que c'est juste des gens ben, comme vous et moi, qu'on a une auto, puis on a besoin d'arrondir les fonds de moi. Non, c'est 50 milliards, là. Attention, alors elle dit, OK, l'angélisme, là, on va comme laisser ça à d'autres. Elle dit aussi, Ariane Kroll, rappelons-nous que lorsqu'une société comme celle-là demande à être réglementée, c'est la légitimité et non les contraintes qui l'intéressent. L'intérêt pour UberX montre qu'une partie des consommateurs, dit toujours Ariane Kroll, ils sont prêts à passer de certaines normes imposées aux taxis, comme la constance dans les tarifs, le permis de conduire particulier, etc., en échange d'autres avantages, comme par exemple commandes et paiement par cellulaire, notation du chauffeur. Je vous reviens tout de suite, on va mettre un petit peu de musique, mon ami, s'il te plaît. Voilà, c'est tous les jours à la même heure et je me plais à penser que c'est mon papa qui me dit qu'il est là quelque part et qui m'a envoyé le même problème que lui exactement. Alors donc, elle nous dit aussi, Ariane Kroll, que la perception des taxes et des impôts est sans doute le plus gros problème du laisser-aller actuel. Et dans un endroit comme le Québec où l'on dépend de ses revenus pour financer les services publics, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la population. Alors, OK, Uber dit qu'elle est prête à fournir au fisc un relevé des revenus encaissés par chacun de ses chauffeurs, comme elle le fait dans certains endroits aux États-Unis. Mais c'est un minimum, dit Ariane Kroll, pour favoriser la déclaration et la vérification de ses revenus de travail autonome. Le cas de la TPS et de la TVQ, oh, ça s'annonce plus épineux. Selon Uber, les chauffeurs en sont les seuls responsables, puisqu'ils sont travailleurs autonomes. Le hic, c'est qu'elle ne leur permet pas de percevoir ces taxes. L'entreprise qui contrôle les tarifs refuse de les ajouter au montant de la course. Selon elle, ce serait au chauffeur de reverser une partie de la somme en taxes. Et encore pas tous, puisque seuls les particuliers qui font au moins 30 000 $ de revenus de travail autonome doivent s'inscrire au fichier de TPS et de TVQ. Les taxes seraient donc perçues seulement sur l'argent qui revient au chauffeur, 80% du montant de la course, et beaucoup de transactions y échapperaient, puisque justement, plusieurs chauffeurs œuvrent à temps très partiel. Un traitement inéquitable, dit Ariane Kroll pour finir, par rapport aux trajets en taxi et à de nombreux autres services qui sont systématiquement taxés, et une grande perte de revenus pour les gouvernements. Ce ne sont que quelques exemples, d'autres problèmes vont ressortir à l'usage. L'encadrement du covoiturage à but lucratif exige une réflexion en profondeur. La caricature ce matin dans la presse, signée évidemment Serge Chapelot. Nous sommes sur le terre-plein central du boulevard René Lévesque à Montréal. Et donc, il y a circulation des deux côtés, une petite journée bien tranquille. Et sur ce terre-plein, il y a M. Harper qui est là avec son tout petit drapeau arc-en-ciel. Et puis, il y a quelqu'un qui n'apparaît pas dans l'image et qui lui dit « M. Harper, c'était dimanche, le défilé de la fierté. » Oh, et là, il fait « Oh, quel dommage, je l'ai encore manqué. » Monsieur Harper, d'ailleurs, qu'on voit en photo pour illustrer peut-être la chronique de Patrick Lagacé ce matin qui s'intitule « Je ne serai pas candidat ». Là, à chaque élection, c'est la même chose. Mais non, je ne parle pas de l'économie comme priorité toute puissante de tous les grands partis. Je parle des journalistes qui font le saut et qui se mettent la face sur un poteau. La 42e élection fédérale ne fait pas exception. Régent Léveillé et Pascal Derry, anciens de TVA, veulent être élus sous la bannière du Parti fédéral qui, de nos jours, méprise le plus ouvertement les journalistes et le journalisme, j'ai nommé le Parti conservateur. Et mon ancien collègue du Journal de Montréal, Martin Leclerc, veut devenir député NPD. J'en oublie, certainement. Voici comment ça se passe. Quand on est approché par un grand parti politique, j'ai été approché 3 fois, permettez que je taise l'identité des protagonistes. Le contraire serait cheap, je pense. La première fois, nous raconte Lagacé, c'est un député qui, après une entrevue, dans une discussion à bâton rompu, me demande, sourire en coin, « T'as jamais pensé à te présenter ?» C'est, je dirais, le degré zéro du flirt de candidat potentiel, la porte ouverte, monte prendre un verre et plus si affinité, dit Lagacé. La seconde fois, c'est lors d'un dîner sollicité par le chef d'un parti pour lui parler de son livre. Alors parle, jase, la conversation dévie loin du bouquin et rendu au dessert, il confie à Lagacé, cet homme politique, la difficulté du recrutement. « Pis vous !» s'exclame-t-il. « Alors, ça vous tenterait pas ?» Lagacé qui répond ah, « Je vous verrai bien, vous êtes une bonne tête, vous avez du bagou. » Et la troisième fois, le premier contact s'est fait par le message privé sur Twitter, genre « Salut, j'ai lu ta chronique, on peut se parler au téléphone ?» La chronique n'évoquait ni le chef ni son parti, mais « What the fuck ?»« Ok, parlons au téléphone !» dit Lagacé. Au téléphone, pas un mot sur la chronique, il est allé droit au but. « Bon, écoute, on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi, mais je voulais te dire que si jamais tu pensais à te présenter en politique, j'aimerais bien que tu penses à nous. » Voilà, 3 partis différents au provincial et au fédéral. Voilà, vous savez presque tout. Et j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non tout de suite. D'abord parce que j'aime mon métier, que je le fais sur plusieurs tribunes dans des conditions qui relèvent plus du rêve mouillé que du labeur. Ensuite, je vais le dire brutalement, je n'ai pas envie de devenir une plante verte. Et être député en cette ère du tout au chef, c'est être un peu, beaucoup, une plante verte. Je leur dis toujours non, donc, parce que la fonction de député n'est pas importante. On en a fait des robots obéissants, sauf exception, exceptionnellement exceptionnel. Je pense que la politique préfère des gens qui ne pensent pas trop, qui ont du talent dans la peinture à numéros. Relisez ici le témoignage de Julie Boulet, ex-ministre d'une grande province, d'un grand pays du G7, à la commission Charbonneau, si vous voulez comprendre. Il y a 1000 exemples de députés heureux de s'asseoir sur les genoux du ventriloque en fonction au bureau du chef. Mais bon, je m'égare, dit l'agacé. Où m'en allais-je avec mes pots de ficus benjamina? Ah oui, le contrôle de l'information n'a pas commencé avec Stephen Harper, mais le contrôle de l'information, le mépris des journalistes et l'évitement systématique de leurs questions ont atteint sous son règne des proportions jamais vues à Ottawa. Or, le Journal de Montréal a récemment demandé aux ex-journalistes Gérard Deltel, Régent Léveillé et Pascal Derry ce qu'ils pensaient du contrôle de l'information exercé par leur chef. Il y a zéro scoop ici, mais ils n'en pensent rien de mal, bien au contraire. Alors, il conclut en disant l'agacé « I rest my case », comme ils disent à Ottawa. Tiens, allez, on part sur autre chose. Chez nous, quand on perd des dents, dans mon ancienne vie, quand on perd des dents, on met la dent en dessous l'oreiller et on dit que la petite souris va passer dans la nuit. Puis la petite souris, elle met des sous. Alors ici, la première fois qu'on m'a parlé de la fée des dents, j'ai dit, mais de que c'est, de quoi on me parle? Ah, je ne savais pas, il y a 30 ans, en arrivant, que ce n'était pas la petite souris, mais la fée des dents. Eh bien, figurez-vous que la fée des dents, elle est très généreuse au Québec. Les petits Québécois peuvent sourire à pleines dents, c'est dans la belle province que la fée des dents glissera le plus d'argent sous leur oreiller, selon un sondage de Visa Canada, et c'est Isabelle Massé qui signe ce très sérieux papier dans la Presse Plus ce matin. Les petits Québécois recevront en moyenne 4,08 $ par molaire tombé dans la prochaine année, selon le sondage. Fait étonnant l'an dernier, le même sondage concluait que les Québécois étaient ceux qui recevaient le moins d'argent, soit en moyenne 2,06 $ par dent de lait perdu. Le sondage a été mené auprès de 2000 Canadiens contre 3000 en 2014. Autrement dit, l'an dernier, la fée des dents, elle s'est dit non, c'est pas possible qu'on donne aussi peu au Québec. Pouf, ça a doublé, 100% de bénéfice pour les mômes.
Moi, j'avais 25 cents.
25? Oui, attends, mais il y a combien de temps, mon loulou?
35 ans.
Ah oui, quand même. Tu les fais pas, hein? le montant laissé par la fée des dents sous les oreillers canadiens est en hausse de 23%, 3,44, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez avec l'inflation? Le montant laissé par la fée des dents sous les oreillers américains, 3,19 $. Le montant est en baisse pour la deuxième année aux États-Unis. Le sondage fée des dents de Visa Canada pourrait-il constituer à long terme une variable économique au même titre que l'indice du prix du Big Mac partout dans le monde? On n'osera jamais faire de parallèle entre ce sondage et l'économie d'un pays, répond la directrice de l'éducation financière de Visa Canada, Carla Heidman.
Au quotidien, avec Clotilde Seil.
Je me lève, il est encore tôt, et je m'en vais travailler. Debout dans un métro bondé, pour échanger les plus belles heures de ma journée contre un salaire. Et c'est bien clair, j'y perds au change. Si je pouvais mettre en fil soir et matin, je serai sûrement quelque part dans un pays lointain, loin aussi loin que tous les rêves de mon enfance. Le passager de l'heure de pointe a fait le tour du monde à pied. Si ses voyages sont dans sa tête, son corps est quand même fatigué. J'en ascenseur qui monte avec lenteur. Je débarque pour embarquer dans un bureau ou même assis. Je monte et descends selon les heures et les humeurs de mes supérieurs. Si je pouvais sûrement quelque part dans un pays lointain, loin aussi loin que tous les rêves de mon enfance. Le passager de l'heure de pointe a fait le tour du monde à pied. Si ses voyages sont dans sa tête, son corps est quand même fatigué. Passager de l'heure de pointe a fait le tour du monde à pied. Si ses voyages sont dans sa tête, son corps est quand même fatigué.
Et nous voici, c'est la deuxième demi-heure qui commence de l'émission Au quotidien, comme tous les jours avec le Journal de Montréal et les titres qu'on peut y trouver. Quand prendre ses vacances pour profiter du beau temps? C'est la question qu'on se pose et la réponse est quand même évidente, entre juillet et août. On a aussi à la une du Journal de Montréal une photo de Serge Postigo qui réplique aux critiques qu'en ce moment il y a des auditions publiques pour Mary Poppins et il a convié des artistes professionnels mais aussi des artistes amateurs qui n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier d'un agent artistique. Donc il a ouvert ça à tout le monde mais du coup les artistes font la baboune, alors il réplique à ces critiques-là. On nous annonce aussi à la une du Journal de Montréal ce matin la chronique de Mathieu Bock-Côté que je vais vous lire sur le fait qu'on idolâtre beaucoup l'insignifiance en ce moment. Et puis en dessous, il y a cette photo de cette femme qui a 80 ans et qui veut savoir avant de mourir. Sa fille est portée disparue, cela fait maintenant 20 ans. Et elle voudrait tellement savoir avant de mourir, au moins c'est parce qu'elle dit, c'est un cri du cœur. Elle dit, je suis convaincue maintenant qu'elle est décédée. C'est ce qu'elle dit, Chantal est décédée. Il n'y a aucune chance qu'elle soit encore vivante, mais je suis incapable de faire mon deuil. Je dois savoir où elle est, dit cette mère, ajoutant s'être déjà fait dire que sa fille était enterrée sous le ciment. Elle s'appelait Chantal Picotte. Je me souviens de cette histoire-là parce que c'est un nom qui se retient quand même assez bien, Picotte. C'est arrivé le 22 novembre 1995. Ce soir-là, elle aurait passé une soirée dans un bar qui s'appelle le Cocktail à Saint-Jérôme. Et puis, quand elle est sortie de là, eh bien, on ne l'a jamais revue. J'aimerais que ceux qui savent ce qui est arrivé à Chantal me fassent le plus beau cadeau qui soit celui de me dire où est ma fille. Je remercie ces personnes de tout mon cœur de mère, a-t-elle dit avec émotion. C'est donc la une du Journal de Montréal ce matin. Également à la une, évidemment, cette année, on se dit que c'est le mois d'août qui est le mois exceptionnel pour partir en vacances avec les grosses chaleurs que nous avons connues. On nous parle aussi de la prudence devant la chaleur accablante. Si vous n'avez pas la climatisation chez vous, on vous recommande peut-être d'aller passer au moins 2 heures dans un endroit climatisé, centre commercial ou quelque chose comme ça, pour vous rafraîchir, parce que mine de rien, vivre sans climatisation en ce moment, de jour comme de nuit, c'est extrêmement difficile, surtout si vous êtes âgé ou si vous êtes déjà diminué par une maladie. Également aujourd'hui, un site pour vendre ses restants. J'ai trouvé ça intéressant. Marie-Christine Trottier, est-ce que c'est la Marie-Christine Trottier qu'on connaît? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette femme écrit que les amateurs de cuisine maison et de découverte culinaire peuvent désormais accéder à des dizaines de plats en quelques clics sur un nouveau site web lancé en juin dernier. Le concept de Cooked, donc C-O-O-K-E-D, for you, 4 U, for you, est semblable à d'autres sites web de vente en ligne tels Airbnb. On peut y acheter et vendre des plats cuisinés à la maison. Les utilisateurs y publient des photos des plats et fixent un prix. D'autres utilisateurs peuvent les acheter, les faire livrer ou aller les chercher eux-mêmes. Toutefois, les normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, ne permettent pas de vendre de la nourriture sans permis. Joint hier par 24 heures, un porte-parole a indiqué que le MAPAC ne connaissait pas ce site et qu'il allait se pencher sur la question. Moé Ensouli, le fondateur de Cooked for You, considère toutefois que son site est une plateforme d'échange de services qui permet de diminuer les coûts de la préparation de nourriture. Il s'assure par ailleurs que les utilisateurs respectent des normes de salubrité. Ça, c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir quand on ne connaît pas, hein, à les savoir. Cela étant dit, même dans des compagnies que l'on connaît bien, j'avais un jour parlé avec une personne qui était employée dans une compagnie que je ne nommerai pas, mais et qui a déjà vu de la bouffe tomber par terre et la personne remettre la bouffe qui plus tard serait servie. Ça arrive tout le temps, hein. Mais en tout cas, ça me semblait intéressant, ça, les sites d'échange et de troc, hein, comme ça, ça existe de plus en plus pour les gens démunis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le journal de Montréal? Encore une affaire de Galaxy. C'est dans la rubrique que j'aime bien, qui s'appelle « En 5 minutes ». Cette fois-ci, elle est consacrée à l'espace. La plus lointaine galaxie de l'univers, des chercheurs de l'Université Yale et de l'Université de Californie à Santa Cruz ont découvert une galaxie très, très lointaine, plus lointaine dans le temps et l'espace que toutes celles jamais observées jusqu'à ce jour. EGS-ZS8-1, c'est la seule et la unique fois que je vous aurais donné son nom, se trouve à 13,1 milliards d'années-lumière de la Terre, dans la constellation boréale du Bouvier. Donc distance depuis la Terre, et le pire c'est qu'ils ont réussi à prendre une photo, hein. Je serais incapable de vous dire en kilomètres, parce que là, c'est comme trop. Après le trillion, moi, je suis perdue. Bon, écoutez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 chiffres de suite pour dire kilomètres. Voilà. Alors, arrangez-vous avec ça. Et des astronomes ont calculé l'âge de cette galaxie depuis l'observatoire Keck, K-E-C-K, dont les deux télescopes géants sont perchés à une altitude de 4145 mètres sur le mont Mauna Kea à Hawaï. Et cette galaxie donnait naissance à des étoiles 80 fois plus rapidement que le fait actuellement notre galaxie, la Voie lactée. Ces étoiles n'auraient pas du tout l'air de notre Soleil, elles seraient beaucoup, beaucoup plus bleues, a indiqué l'astronome Garth Illingworth. La lumière de la galaxie en question a mis 13,1 milliards d'années à nous parvenir et montre donc de quoi avait l'air cette galaxie à cette époque. La naissance de l'univers avec le Big Bang date d'il y a 13,8 milliards d'années, ce qui veut dire que cette galaxie s'est formée très tôt. Grâce à Hubble, nous savons que depuis le Big Bang, l'espace entre les galaxies est en expansion, comme deux points sur la surface d'un ballon qui se gonfle. C'est pas facile à comprendre tout ça, hein. Sans le voir en plus. Écoutez, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hallucinant comment tout cela nous échappe. C'est-à-dire, ça m'échappe pas seulement à moi là en le lisant, ça nous échappe totalement. Alors quand on a des petits bobos, on devrait se dire que finalement, nous sommes bien peu de choses. Moi ça me fait ça quand je suis en avion. quand je suis en avion, là, je suis complètement sur un high parce que je me sens dans un no man's land absolument incroyable qui, pourtant, n'est pas loin quand même par rapport à la... Mais quand même, alors imaginez, 13,1 milliards d'années-lumière, cette galaxie EGS-Z. Ils étaient des milliers à Pointe-Calumet avant-hier à avoir payé plus de $100 pour accueillir Kylie Jenner, la plus jeune membre du clan Kardashian qui fêtait ses 18 ans. Les Kardashian ou Kardashian, c'est cette richissime famille rendue célèbre par une télé-réalité qui lui est consacrée et qui prend le monde à témoin pour exposer ses péripéties mondaines. La grande vedette de la famille s'appelle Kim, elle s'est fait connaître avec un sex tape il y a quelques années où elle multipliait les pirouettes érotiques avec son amant du moment. À ce qu'on dit, on l'avait payé $100 000 pour être là. Peut-être 200 000 même. Pour ce qu'elle chante, non, on ne lui connaît pas ce talent. Ben, pour qu'elle danse alors, non plus, dit Bock Côté. Ce n'est pas exactement une artiste, en fait, elle devait simplement faire la poupée, se pavaner, se montrer, s'offrir en selfie, faire la belle en quelque sorte. C'est la carrière des vedettes qui ont pour principale vertu de maîtriser les nouveaux codes de la célébrité. Comme on dit, ils savent flasher, mais c'est bien tout. Semble-t-il que c'est assez pour qu'on les admire. Ce n'est pas la première fois, nous rappelle Bock Côté. Il y a quelques semaines, le Beach Club recevait un ahuri absolu d'Dan Bilzerian, joueur de poker, vedette d'Instagram et consommateur d'armes à feu, de bimbo, d'alcool, de Viagra et de drogues de toutes sortes. Lui aussi avait attiré la meute, ou si on préfère, le vaste troupeau. À une journaliste qui passait le micro aux fans qui s'entassaient pour le voir en maillot, une jeune personne a répondu que ce monsieur-là avait la vie rêvée et qu'on l'admirait pour cela. « La vie rêvée », dit Bock Côté. « Il était riche et célèbre sans avoir rien fait de spécial. J'essaie de comprendre sans me laisser emporter par une profonde réaction de dégoût. Le rêve des rêves, c'est de rejoindre ces nouvelles vedettes dans leur univers enchanté. » La réalisatrice Sofia Coppola a réalisé il y a quelques années un excellent film, « Bling Ring », dans lequel elle examinait les ravages de ce culte de la célébrité et du luxe ostentatoire dans la jeune génération. Chose certaine, c'est un monde qui se vautre dans la fange et qui ne sait plus distinguer ce qui mérite vraiment d'être admiré. Ceux qui relativisent tout me diront, en paraphrasant sans le savoir un historien français oublié, que ça a toujours mal été. C'est une manière comme une autre de se réconforter. De se réconforter, concluait Mathieu Bock Côté. Allez, on file en région, notamment dans l'Outaouais, où à la une du droit, c'est la vague de chaleur qui sévit, bien sûr, aussi là-bas, qui fait le principal titre à la une du droit. À l'intérieur, dans les pages, j'ai trouvé cette chronique de Patrick Duquette, puis j'en revenais pas qu'on parle encore de ça en 2015. Ça s'intitule « Vous habitez dans un tipi ?» Je pense que tout est dit. Rainey Maynes me jasait de tous ces préjugés auxquels font face les autochtones qui se cherchent du boulot hors réserve dans le domaine de la construction. Dès que Rainey sort des limites de Kitiganzibi, une réserve algonquine située près de Maniwaki, ses nombreuses années d'expérience à manier la pelle mécanique et de l'équipement lourd ne comptent plus. Comme bien des autochtones qui habitent et travaillent sur une réserve, Rainey n'a pas de carte de la Commission de la construction du Québec, la CCQ, qui lui ouvrirait la porte des chantiers syndiqués au Québec. Ce grand et solide Algonquin est donc confiné au seul chantier de la réserve indienne. Ailleurs, il se bute non seulement au cadre légal imposé par les CCQ, mais aussi aux préjugés de nombreux employeurs qui hésitent à embaucher de la main-d'œuvre autochtone. D'ailleurs, Rainey n'hésite pas à parler de racisme pour décrire les réticences de certains entrepreneurs à l'endroit des ouvriers autochtones. Des fois, je me fais encore demander si je vis dans un tipi. Alors il faut que j'explique que, comme tout le monde, je vis dans une maison. Vous savez, ces boîtes carrées avec des murs. « En drywall », soupire-t-il. Ça, c'est la réalité de bien des Autochtones. Alors, quand un gros promoteur immobilier comme Jeff Wisting de Windmill clame haut et fort qu'il veut embaucher de la main-d'œuvre autochtone sur le chantier de Zibi à Gatineau, les autochtones tendent soudain l'oreille. Quand en prime, la CCQ fait écho à ses déclarations pour dire qu'elle est ouverte à des mesures administratives particulières pour réaliser le vœu du grand patron de Windmill, c'est bien simple, les autochtones n'en croient plus leurs oreilles. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un gros développeur comme Windmill vient voir les Algonquins pour les inviter à travailler pour lui. C'est un précédent, tranche Wanda Thusky de Dinkanti Construction, une autochtone de Lac Barrière. Quant à Rainy Minis, il avait depuis longtemps renoncé à faire reconnaître ses acquis par la CCQ, mais le voilà maintenant, prêt à tenter le coup pour obtenir sa carte de compétence au Québec. C'est beau à voir, un gros donneur d'ouvrage comme Windmill qui veut donner la chance aux gens des Premières Nations de travailler, et c'est du long terme puisqu'on parle d'un chantier de plus d'un milliard réparti sur 15 ans, dit-il. Ouf! À la une du Soleil ce matin, on nous dit, et c'est vraiment le gros titre, avec une photo à l'appui, je vois une longue, longue file de personnes qui attendent. Qui attendent de quoi? Eh bien, ces gens-là attendent pour pouvoir aller visiter le nouvel amphithéâtre. Il semblerait que la moitié des 175 000 billets d'entrée pour la visite de ce nouvel amphithéâtre s'est envolée hier à Québec, bien évidemment. Que nous dit-on sur le sujet? Je me rends là, c'est page 2, voilà, j'y suis. C'est Madame Annie Morin dans Le Soleil qui écrit qu'en une heure à peine, à partir de midi, 54 254 personnes étaient assurées de fouler la patinoire destinée à d'éventuels nordiques. Vers 14 heures, 77 000 laissés-passer étaient écoulés. Un nouveau bilan sera disponible aujourd'hui. Le Soleil a obtenu des billets sans difficulté, avec tout de même quelques minutes d'attente pour le traitement de la demande et l'impression des billets. La ville de Québec n'a pas eu vent de difficultés informatiques malgré la cohue. En conférence de presse hier matin, quelques minutes avant la mise en circulation des précieux sésames, le maire Régis Labeaume était confiant de la réponse du public. Aussi s'est-il attardé aux difficultés d'organiser une visite guidée pour 4000 personnes, même dans un bâtiment qui peut en asseoir 18 259. Pour nous, c'est un gros défi logistique de faire entrer 8 groupes de 4 000 visiteurs de 8 à 22 heures. C'est à peu près 35 000 personnes par jour à organiser, à faire entrer dans un amphithéâtre, à faire ça dans l'ordre, sans problème, a-t-il détaillé. Alors, pendant les 2h30 que durera la visite, les citoyens découvriront le hall d'entrée et l'œuvre d'art Le Grand Bleu du Nord. Ils seront dirigés vers la coursive supérieure afin d'avoir une vue d'ensemble de l'amphithéâtre et de là, ils seront invités à s'asseoir pour assister à une projection multimédia d'une dizaine de minutes. Puis, tout le monde va pouvoir traverser la patinoire et quasiment s'asseoir sur le banc des joueurs. C'est un succès garanti. C'est là où il y a beaucoup d'émotions à assurer le maire Labeaume qui en a déjà fait l'expérience. Parlant du maire Labeaume, il se prépare à faire une tournée de promotion pour son amphithéâtre. Et c'est avec une ferveur de comptable que le maire Régis Labeaume se lance dans cette tournée de promotion du centre Vidéotron. « Quand Québécois fait de l'argent, la ville de Québec fait de l'argent », a-t-il fait remarquer, se défendant d'agir à la solde du gestionnaire de l'amphithéâtre. « Pour nous autres, c'est payant. Plus il y a de monde qui rentre dans le centre Vidéotron, plus c'est payant », a déballé le maire hier devant les journalistes de Québec. M. Labeaume, qui a énuméré les gains espérés, a commencé par les 4 $ récupérés pour chaque billet de spectacle vendu. C'est 70 à 80 000 $ pour un soir et t'as rien fait, s'est-il réjoui. Puis il y a les 10 % de profit net, le loyer plus élevé si Québécois présente un bilan positif. Comprenez-vous, on a avantage à ce qu'il rentre du monde et on va en faire la promotion. A martelé le politicien, hier, M. Labeaume a pris la direction de Rimouski, où il honorera son pari de bénévolat après la défaite des remparts contre l'Océanique au printemps dernier. Il a commencé sa tournée médiatique en chemin avec des arrêts à Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup. Écoutez-vous, l'émission hier, dans le journal de Montréal, on déplorait, et c'est vrai que présenté tel que c'était, c'était complètement déplorable, une expropriation comme ça, sans prévenir, des huissiers qui arrivent à la porte de Jean. Où cela se passe? À Lac-Mégantic. Donc des gens, on s'entend exproprier sur les terrains même où a eu lieu l'accident. Donc un terrain qu'on peut imaginer, c'est terrible comme image, mais c'est vrai. Peut-être encore rempli de cendres humaines, finalement. Et ces gens-là étaient donc terriblement chagrinés. Or, aujourd'hui, Alexandre Faye nous dit dans la tribune que ses propriétaires étaient avisés depuis 2014. La ville de Lac-Mégantic a amorcé des démarches dans le but d'exproprier certains propriétaires de la zone sinistrée au centre-ville, une situation donc décriée par les résidents concernés. Et là, on fait état de cet article publié hier dans le journal de Montréal et dont je viens de vous reparler. Alors, la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche, s'étonne que des citoyens prétendent ne pas avoir été informés et rappelle que plusieurs rencontres d'information ont eu lieu au cours desquelles les propriétaires concernés étaient invités à communiquer avec la ville pour connaître la marche à suivre pour la reconstruction de leur résidence. Les propriétaires sont au courant depuis 2014 que pour reconstruire le centre-ville, on devait acquérir leur terrain, soutient-elle. Concernant la valeur de ceci, il a été convenu avec le ministère qu'elle correspondrait à l'évaluation municipale datant d'avant le 5 juillet 2013. Nous ne sommes pas dans un processus de négociation. C'est la même chose pour tout le monde, rappelle la mairesse. Le plan d'aide aux sinistrés, élaboré conjointement avec le ministère de la Sécurité publique, convenait qu'il était préférable pour la ville de devenir propriétaire de tous les terrains présents dans la zone sinistrée afin d'assurer la décontamination du site dans un premier temps, puis la reconstruction du centre-ville. M. Veilleux déplore que le gouvernement du Québec avait promis aux sinistrés qu'ils retrouveraient leur terrain, promesse qui ne pourra être tenue dans son cas puisque la ville a modifié le zonage de son lot pour en faire un parc commémoratif en l'honneur des victimes de la tragédie. Si M. Veilleux veut reconstruire, il peut soumettre son projet au bureau de la reconstruction et on lui suggérera des terrains, a indiqué à ce sujet Mme Roy-Laroche. Dans l'article, M. Veilleux ajoutait qu'il a dû, il y a 2 semaines, céder un second terrain lui appartenant pour 90% de sa valeur municipale. Mme Roy-Laroche indique que cette information est fausse et que la confusion provient de l'indemnité provisionnelle déboursée en avance par la ville pour l'acquisition du terrain par expropriation. La ville paie 100% du montant de l'évaluation municipale, affirme-t-elle. Et puis pour finir cette heure, compte tenu du fait qu'en début de deuxième heure, je vais aborder les élections fédérales, bah tiens, on va commencer à y penser un petit peu tout de suite avec ce papier de Gilbert Lavoie paru dans tous les journaux régionaux ce matin. Un papier qui s'intitule « Sur les traces de Kate et William ». Gilbert Lavoie qui écrit que peu de gens ont résisté à la tentation de jeter un coup d'œil à la télé et dans les journaux de fin de semaine pour voir des photos du couple Snyder-Pelladeau. Même le soleil était au rendez-vous, ce qui a donné de très belles images de l'arrivée des mariés et de la pléiade de vedettes et de politiciens qui avaient été invités. Même si cette célébration de l'amour avait une connotation politique évidente, il y avait bien davantage que de la politique dans l'événement. Il y avait surtout beaucoup de glamour, tout comme dans les grands galas annuels réunissant les vedettes du cinéma ou de la musique. Les Québécois s'y sont donc intéressés, nous dit Lavoie, tout comme ils avaient été nombreux à suivre la cérémonie unissant le prince William et Kate Middleton en 2011, ce qui, soit dit en passant, n'avait rien à voir avec leur opinion sur la monarchie britannique. Pardon. Nous sommes ici dans le monde des célébrités, un univers où les histoires d'amour et les scandales occupent généralement un espace médiatique hors de proportion. Mais nous venons également d'ouvrir une nouvelle fenêtre de l'univers politique, celle du showbiz, une fenêtre avec laquelle nous ne sommes pas familiers et dont nous ignorons l'influence. Les Québécois seront-ils plus nombreux à appuyer le PQ et la souveraineté parce qu'ils aiment Julie Snyder et parce qu'elle était resplendissante dans sa robe de mariée? Seront-ils plus nombreux à voter pour Pierre-Carl Péladeau parce qu'il leur a fait partager une belle histoire d'amour et qu'il les a fait rêver? La réponse tient probablement davantage dans le rôle que Julie Snyder voudra occuper en politique au cours des prochaines années. Les 3 prochaines années. La présence des conjoints en campagne électorale est une chose à laquelle on nous a habitués, mais pas en dehors de ces périodes. Madame Snyder est déjà très engagée politiquement. Il serait étonnant qu'elle se fasse soudainement plus discrète à cause de son nouveau statut marital. Cela pourrait jouer en faveur du PQ, tout comme cela pourrait multiplier les risques. À cause même de sa notoriété et de sa personnalité, elle sera beaucoup plus surveillée par les médias et les autres formations politiques que ne le sont les épouses de Philippe Couillard et de François Legault. Le couple s'est dit « oui » en fin de semaine. Il faudra voir si cette célébration du « oui » fera des petits ailleurs. Une caricature pour finir cette demi-heure. Nous sommes dans un bureau où il y a deux travailleurs qui sont en train de travailler et qui se les gèlent avec l'air climatisé. Alors il y en a un des deux qui regarde par la fenêtre et qui voit ce gros soleil qui chauffe. Et il y a à la une du journal « Vague de chaleur au Québec ». Tout le monde de retour au boulot.
Au quotidien, avec Clotilde Seil.
Nous avons eu la guerre aussi, le rationnement. Il fallait ménager pour être indépendant. Et pour se régaler de la giblotte au lapin, plusieurs, je vous assure, ont failli crever faim. Des taxes puis des taxes, impôts sur le revenu. Je vous dis qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Des taxes puis des taxes, impôts sur le revenu. Je vous dis qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Nous voilà dans le chômage depuis quelques années. Il faudrait 200 piastres pour se faire engager. Et ça sera bientôt frais, comme dira Séraphin, en mangeant de la galette et de la saucisse de chien. Des taxes, puis des taxes, impôts sur le revenu. Je vous dis qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Des taxes, puis des taxes, impôts sur le revenu. Je vous dis qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Pour les jeunes du village qui veulent se marier, sur l'assurance chômage, c'est pas riche à craquer. Ça fait pas leur affaire, les amours sont cassés. La chose qui reste à faire, va falloir espérer. Des taxes, puis des taxes, impôts sur le revenu. Faut dire qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Des taxes, puis des taxes, impôts sur le revenu. Faut dire qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Pendant que les millionnaires se promènent gentiment, il y a des chômeurs dans tout le continent. Du boudin, de la forçure, de la morue, du errant. Et pour se régaler, on fricasse les restants. Des taxes, puis des taxes, impôts sur leur venue. Vous dit qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Des taxes, puis des taxes, impôts sur leur venue. Vous dit qu'on arrache, on prend jamais le dessus.
Les taxes, Oscar Tifo, c'est excellent. Il y avait une chanson comme ça, je pense que si on pouvait la retrouver, c'était Reventura et les collégiens, mais on ne l'aura peut-être pas ici. Mais c'est ça, on parlait, entre autres, il y avait un couplet sur quelqu'un qui ne payait pas ses impôts, et dans le refrain, ça disait... C'est dégoûtant, mais nécessaire. Voilà, c'est dégoûtant, mais nécessaire. Je ne sais pas si on pourrait retrouver cette chanson-là signée. Je pense que c'était Reventura et ses collégiens qui chantaient ça. Mais non, c'était pour nous amener aux élections fédérales, les taxes d'Oscar Tifo. Je suis dans le Journal de Montréal avec Richard Martineau aujourd'hui. Élections fédérales, le prix du public, dit-il. Au Canada, la politique ne sent pas la chenoute, mais le champagne. C'est à qui sera le plus glamour, le plus people, dit-il. Champion en la matière, Justin Trudeau. Le chef du PLC a lancé un concours qui ferait passer les auditions de La Voix pour un test d'entrée à la Sorbonne. Gagner une journée avec Justin Trudeau, passer une journée avec lui à bord de l'avion de la campagne libérale. Comme vous avez pu le lire, dimanche, les gens ont jusqu'au 31 août pour s'inscrire et un gagnant sera désigné par tirage au sort le 1er septembre à midi à Ottawa. Pas besoin de faire un don au parti, précise-t-on sur le site du PLC. Tous les citoyens sont admissibles, même ceux qui ne voteront jamais libéral. Ouf, ça me rassure. C'est pas moi qui le dis, c'est Richard Martineau qui dit ça. Et moi qui pensais que c'était une opération partisane destinée à mousser l'image de Justin. Eh oui, on en est rendu là. On tire au sort des places dans l'avion de la campagne d'un éventuel futur Premier ministre. Vous croyez que Churchill aurait accepté ça, ou De Gaulle, ou Lester B. Pearson, le père des casques bleus? Cela dit, ces hommes d'État avaient l'air d'un coup de poing dans un pâté à la viande, alors que Justin est tellement cute. Là encore, c'est écrit comme ça. C'est le Bieber de la politique. À quand une soirée bénéfice au Beach Club de Pointe-Calumet avec des douche-bags en camisole et des gardas en gougoune? À chaque achat de 10 shooters, vous avez le droit à un tatouage de chinois qui dit « J'ai Justin dans la peau ». Médaille d'argent dans la politique glamour, Tom, car Thomas faisait un peu trop aristocrate, trop hautain, trop distant, alors que Tom, c'est comme Jack Layton, le bon gars, l'ami, le copain. T'as vu ce que Jack promet? T'as vu ce que Tom promet? Thomas, en anglais, ça fait Downton Abbey, le bonhomme hyper snob avec un balai dans le cul, alors que Tom, c'est plutôt col bleu, dit toujours Martineau. Ajoutez à cela les photos de Tom en bras de chemise et vous avez un working class hero canadien. Médaille de bronze de la politique glamour, Gilles Duceppe. Les agendas des politiciens sont censés recenser leurs activités politiques, pas leurs activités personnelles. Or, comme me l'a fait remarquer un ami Facebook, Daniel Paquet, voici ce qu'on pouvait lire le 15 août sur le site du Bloc québécois dans la section agenda du chef du Bloc québécois. Bain de foule sur la rue Sainte-Catherine dans le cadre du festival Fierté, lieu kiosque du Bloc et du PQ entre les rues Alexandre de Sèvres et Plessis, heure 11h. Mariage de Julie Snyder et Pierre-Carl Pellado, lieu chapelle du musée de l'Amérique francophone, heure 17h15. Il conclut simplement comme ça en nous disant, Richard Martineau, donc le mariage royal était bel et bien un événement politique. Tiens, parlant de M. Duceppe, dans Le Devoir, on nous dit que le transport par train est dans la mire de M. Duceppe. M. Duceppe qu'on voit en photo avec la péquiste Martine Ouellet, qui a dit craindre que le Québec ne devienne une autoroute du pétrole sale. Il dit que les Québécois ne peuvent demeurer les bras croisés. M. Duceppe, c'est toujours lui qui dit ça. Il a promis lundi de s'opposer bec et ongles au projet du port pétrolier de Belle-Dune au Nouveau-Brunswick qui nécessiterait le transport de pétrole par train au Québec. Le pétrole semble s'avérer payant pour Gilles Duceppe. Celui qui martèle depuis le début de la campagne son opposition au projet de pipeline Énergie Est revient à la charge avec le projet de terminal pétrolier Belle-Dune qui, s'il va de l'avant, forcera le transport de pétrole par train sur des centaines de kilomètres au Québec, sur l'île de Montréal, à Saint-Bruno-de-Montarville, puis au cœur de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Les convois, comptant jusqu'à 110 wagons chacun, pourraient passer en plein centre de Lévis, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Rimouski, a fait valoir le chef du Bloc, flanqué des députés péquistes et, Martine Ouellet et Stéphane Bergeron. Il a dit, M. Duceppe, ce pétrole-là, on ne le raffine pas au Québec, on ne le produit pas au Québec et on ne le consomme pas au Québec. On n'a rien à gagner et on n'a pas un mot à dire. Belle Dune, c'est Énergie Est sur rail. En exergue à ces élections fédérales 2015, il y a le procès Mike Duffy, évidemment, et Nigel Wright qui distingue, attention, il y a une différence entre mensonge et omission. Le procès pour fraude, corruption et abus de confiance du sénateur Mike Duffy s'est beaucoup concentré hier sur ce qui constitue finalement un mensonge ou une omission. Nigel Wright a soutenu qu'il avait prévenu le Premier ministre que le sénateur Duffy rembourserait les dépenses réclamées injustement. Pourtant, c'est M. Wright qui a lui-même effacé de sa poche éventuellement la dette du sénateur Duffy. L'avocat de M. Duffy, Donald Bain, a demandé à M. Wright hier pourquoi il avait ainsi menti à son patron, mais l'ex-chef de cabinet a préféré parler d'une omission. J'ai simplement estimé que cela ne faisait pas partie des sujets que je devais valider avec le Premier ministre, a répondu M. Wright. M. Bain a poursuivi, si vous voyez la tête de Mathieu en face de moi de l'autre côté. Maître Bain, pardon, a poursuivi, Duffy n'allait pas rembourser. Ne croyez-vous pas qu'il y avait une différence entre le fait qu'il rembourse et le fait que le parti rembourse à sa place ? Honnêtement, je ne crois pas qu'il y avait une si grande différence, a répondu M. Wright. L'essentiel, c'était que les dépenses soient remboursées et qu'il, Duffy, ne recommence plus. Le vilain. Et puis l'analyse de Joël Denis Bellavance dans la presse s'appelle aujourd'hui « Convaincre les sceptiques ». Les stratèges conservateurs ne l'ont certainement pas vu venir, celle-là. Thomas Mulcair a annoncé qu'Andrew Thompson briguera les suffrages pour le NPD dans la circonscription torontoise d'Eglinton Lawrence, un fief libéral qui a basculé dans le camp conservateur aux élections fédérales de 2011. Alors, qui est cet Andrew Thompson? Eh bien, il est l'ancien ministre des Finances d'un gouvernement du NPD de la Saskatchewan. Il a siégé à l'Assemblée législative de cette province de l'Ouest de 1995 à 2007. Il a dirigé plusieurs ministères, le plus important étant celui des Finances quand même, de 2006 à 2007. Et en tant que grand argentier de la province, il a présenté deux budgets équilibrés, réduit les impôts des contribuables et réinvesti dans certains programmes sociaux. Pour montrer qu'il ne craint pas d'affronter les conservateurs sur le terrain de l'économie, M. Mulcair a aussi indiqué qu'Andrew Thompson, âgé de 48 ans, se mesurera au ministre des Finances Joe Lever, qui a eu 75 ans au printemps. Comme ministre des Finances, il a déposé plus de budgets équilibrés, deux, que Joe Lever, un seul, a ironisé M. Mulcair durant son point de presse. Autre signe que le NPD passe à l'offensive sur le terrain économique en ce début de campagne, M. Thompson a la ferme intention, oui c'est vrai parce qu'on n'en est qu'au début, hein, il reste deux mois encore. Hein. M. Thompson a la ferme intention de mettre au défi le ministre Lever de participer à quelques débats dans la circonscription qu'il convoite. L'autre avantage que nous procure cette candidature, c'est qu'il a travaillé sur Bay Street, il a le respect de Bay Street, il a des relations. Il a travaillé dans le domaine de l'importation et de l'exportation. Pour le monde des affaires, c'est un excellent signal à ajouter cette source. Dans un autre clin d'œil aux gens d'affaires, le NPD a aussi promis de réduire le taux d'imposition des petites et moyennes entreprises de 11 à 9% s'il prend le pouvoir. Dans cette bataille sur l'économie et les finances publiques, les libéraux de Justin Trudeau n'ont évidemment pas dit leur dernier mot. Ils comptent rappeler en temps et lieu le bilan positif de leurs années au pouvoir, élimination du déficit en 1997, 8 budgets excédentaires de suite, remboursement de 81 milliards de dollars de la dette accumulée, et réduction du fardeau fiscal des contribuables. Ils se frottent aussi les mains à l'idée de faire connaître davantage leur futur ministre des Finances, Bill Morneau, un homme d'affaires de Toronto à la feuille de route impressionnante, qui en 2002 a été reconnu parmi les 40 meilleurs leaders de moins de 40 ans au Canada. Monsieur Morneau qui brigue les suffrages dans Toronto Centre. Résultat, quelle que soit l'issue du scrutin du 19 octobre, il y a de bonnes chances que le prochain ministre des Finances du Canada représentant encore une circonscription de la région de Toronto, une perspective qui doit faire des heureux à Bay Street. Restez avec nous. Quelques mots de sport. Ah oui, puis j'ai des bonnes choses en plus. Vraiment, des choses touchantes, sympathiques. Restez avec nous. Tenez ceci. Avec des photos extraordinaires, deux gens qui arrivent, deux gens qui franchissent la ligne d'arrivée complètement épuisés. Ces gens-là ont fait partie de la course Ironman à Mont-Tremblant. Ils ont droit jusqu'à minuit. Hein. Après minuit, c'est plus homologué. Alors, sur les derniers kilomètres, là, ils n'en peuvent plus, les petits choux. Et il y a des photos absolument admirables de gens qui arrivent, qui pleurent, qui bavent, qui sont dans un état. Il faut rappeler, on va le faire dans l'article, hein, ce que c'est qu'un Ironman, mais c'est quelque chose. Gabriel Bellan était donc à Tremblant. Il fait nuit à Tremblant, écrit-il. Nous sommes des heures après l'arrivée des champions, après la victoire de Jordan Rapp en 8h17min37s, sous le soleil en plus, et la canicule. Maintenant, il fait noir. Ceux qui passent la ligne d'arrivée sont partis juste avant 7h le matin. Ils ont nagé 3,8 km. Ça commence comme ça. Ensuite, ils ont roulé 180 km. Et maintenant, ils essaient de finir tant bien que mal les 42,2 km de course, autrement dit un marathon. Il est 23h. À minuit, ceux qui sont toujours sur le parcours seront disqualifiés. Il faut finir, et vite. C'est un dimanche soir, mais on ne dirait pas. D'énormes haut-parleurs crachent une musique tonitruante, la foule crie à ses poumonnés, et Mike Reilly, la voix de l'Ironman, semble dans un état second. « Elle est mère de quatre filles, mère de quatre filles !» hurle Reilly dans son micro pour encourager la coureuse qui passe difficilement le fil d'arrivée. Toute la journée, Reilly a animé la course sur un perchoir d'où il peut voir les athlètes arriver, mais à 23h, il est descendu, il s'est posté quelques mètres avant l'arrivée et il a commencé à accueillir un à un ses retardataires. Ces retardataires, ces Ironmen de la dernière heure. « Isabelle Pétrin, tu es une Ironman », lance Reilly à la femme de Sainte-Julie qui a fini en 16h51min. La phrase est devenue culte. L'animateur tente de la dire pour tous ceux qui croisent le fil d'arrivée. Mais l'homme doit parfois aller au petit coin et c'est alors son bras droit qu'il remplace. Mais dans la dernière demi-heure, Mike Reilly ne prend pas de pause. Pourquoi ? Parce que cette dernière heure a quelque chose de spécial. Les athlètes qui terminent n'ont pas le physique de ceux qui ont croisé le fil des heures plus tôt. Ils ont parfois un peu de poids en trop. Ils sont souvent exténués, quelquefois blessés. Mais Reilly leur fait une fête encore plus grande qu'à ceux qui terminent 5 heures plus tôt. Pour moi, la passion, le cœur et l'âme de ces gens qui finissent dans la dernière heure sont inégalés, explique Reilly, qui a été intronisé au temple de la renommée Ironman. Tous ceux qui regardent sont touchés par ça. On se dit, si tout le monde pouvait être comme ça, alors le monde irait mieux. Une participante passe le fil d'arrivée, elle s'écroule, des bénévoles la soulèvent, elle a fini. Puis un homme accueille son amoureuse, il l'embrasse, puis la demande en mariage. Reilly lui tend le micro, elle allaite, elle est fatiguée, mais on l'entend dire « oui ». Il reste 4 minutes avant minuit. Alison Chisnall d'Ottawa arrive enfin. En 2012, elle pesait 222 livres. La même année, elle a vu un ami faire l'Ironman de Mont-Tremblant. Elle s'est dit qu'elle pourrait le faire un jour. Ce jour, c'est là. Quand elle s'est inscrite, Chisnall a dit ne souhaiter qu'une chose. Tout ce que je veux entendre pour mon 50e anniversaire, c'est « Alison Chisnall, tu es une Ironman ». Reilly ne manque pas de le faire. Et Chisnall lève les bras en l'air. Ce que je viens de vous lire, c'était dans la presse, c'était signé Gabriel Bellan. Je suis maintenant dans Le Devoir. On nous dit que Drogba sera en uniforme samedi. Qui, Drogba ? Oh ben là, sur quelle planète êtes-vous ? Drogba, le joueur de soccer que l'Impact a réussi à faire venir à Montréal, il sera en uniforme, ce qui ne veut pas dire forcément d'ailleurs qu'il va jouer. Il sera pour la première fois samedi en uniforme contre l'Union de Philadelphie au stade Saputo et tout indique que le joueur étoile ne passera pas tout le match sur les lignes de côté. La formation montréalaise a annoncé la nouvelle par le biais de son compte Twitter lundi après-midi. L'équipe n'a cependant pas précisé si Drogba fera partie du 11 partant. L'entrée en scène de Drogba dans la Major League Soccer surviendra un peu moins d'un mois après que l'Impact eut conclu une entente de 18 mois avec l'athlète de 37 ans. En hockey, Daniel Brière annonce sa retraite. Le joueur de centre Daniel Brière a décidé d'accrocher ses patins après une carrière de 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Brière, âgé de 37 ans, a totalisé 307 buts et 696 points en 973 matchs de saison régulière et il a ajouté 53 buts et 116 points en 124 rencontres éliminatoires. J'ai passé les derniers jours à discuter avec mes proches, a mentionné Brière dans une chronique qu'il signe dans le quotidien Le Droit d'Ottawa. J'ai joué mon dernier match dans la Ligue nationale de hockey. Le moment est venu pour moi d'annoncer ma retraite. Et puis enfin, quelques mots de tennis avant qu'on passe à l'international. Pospisil a réussi son entrée à Cincinnati. Il a donc atteint le deuxième tour de cet Omnium. Il a battu un Américain qui s'appelle Denis Kudla, qui est quand même classé 78e au monde. Alors, ben, bravo Pospisil. Alors, à l'international, il y a cet attentat meurtrier à Bangkok. On se demande, est-ce que c'est l'économie, est-ce que c'est le tourisme qui était visé? Peu habitué aux attentats, la ville de Bangkok s'est réveillée ce matin en se demandant encore qui pouvait bien être derrière l'explosion d'une bombe qui a tué au moins 21 personnes hier soir. Dans un pays aux prises avec une rébellion séparatiste en dispute avec ses voisins, dirigée par une junte militaire et abandonnée au coup d'État, toutes les hypothèses sont permises. La piste d'un attentat visant à détruire l'économie et le tourisme a rapidement été évoquée hier par le vice-premier ministre thaïlandais, le général Wong Suwan. La déflagration est survenue vers 18h30 dans le sanctuaire d'Erawan, situé dans le quartier des affaires de Bangkok, un endroit fréquenté autant par les touristes que par les Thaïlandais. Ce lieu de culte est dédié au dieu hindou Brahma, mais il est aussi visité chaque jour par des milliers de fidèles bouddhistes et il est particulièrement populaire auprès des visiteurs chinois qui sont de plus en plus nombreux à se rendre en Thaïlande. L'engin explosif installé sur une moto stationnée était constitué d'un tuyau contenant 5 kilos de TNT et dissimulé dans du tissu, a indiqué la police. Au moins 4 étrangers figurent parmi les 21 morts et plus de 120 personnes ont également été blessées dans cet attentat qui n'avait pas été revendiqué au moment d'écrire ces lignes. C'est pourtant sur les îles touristiques en général que survient ce genre d'attentat, note David Pavot, spécialiste du droit international à l'université de Sherbrooke. Et ils ne sont pas toujours revendiqués, précise-t-il. Quelques chiffres en Thaïlande. Il y a 68 millions d'habitants. 94% de ces habitants sont bouddhistes. 5% sont musulmans. Et il y a 35 000 personnes, ce chiffre-là, c'est le nombre de déplacés internes, principalement dans le sud du pays. Et le produit intérieur brut par habitant s'élève à 18 800 dollars. Une autre nouvelle, encore pas facile, c'était samedi ou dimanche dernier, ce raid en Syrie, dans un marché. Rouedi Mabardi, à Damas, pour l'agence France Presse, reliée par Le Devoir, écrit ce matin, le Conseil de sécurité de l'ONU a soutenu lundi un nouveau plan pour la paix en Syrie, adopté pour la première fois en 2 ans par la Russie et ses 14 autres membres, alors que l'Organisation des Nations Unies s'est déclarée horrifiée par les raids du régime qui ont fait près de 100 morts près de Damas dimanche. Ce plan de paix correspond au premier projet concernant le conflit syrien sur lequel tous les pays membres du Conseil de sécurité se sont mis d'accord. Celui-ci appelle à mettre fin à la guerre en lançant un processus politique mené par la Syrie vers une transition politique qui rejoint les aspirations légitimes du peuple syrien. Le carnage qui s'est produit dimanche à Douma, le fief rebelle dans la région de la Ghouta orientale, a été aussi vivement condamné par les États-Unis et l'Union européenne. La série de frappes menées par des avions du régime du président Bachar al-Assad a visé un marché très fréquenté de la ville de Douma, située à 13 km au nord-est de Damas, et tenu par les insurgés depuis près de 3 ans. Le bilan est monté à 96 morts, du moins à ce moment-là, en grande majorité des civils, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au moins 240 personnes ont également été blessées d'après cette ONG qui dispose d'un large réseau de sources à travers la Syrie. Lundi, les avions du régime ont encore frappé à 4 reprises la ville meurtrie. Selon un photographe de l'AFP sur place, les habitants tentent d'enterrer leurs morts dans le cimetière, mais certains n'y arrivent pas, car le lieu a été la cible de raids dimanche et lundi dernier, donc hier. Parlant de ces raids-là, en Égypte, on durcit le ton envers les terroristes. Les journalistes du pays sont visés par une nouvelle loi aussi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, accusé par les défenseurs des droits de la personne de diriger un régime très répressif, a renforcé lundi son arsenal antiterroriste par une loi d'exception qui vise, selon ses détracteurs, à museler toute opposition, de même que les médias. Ce nouveau dispositif, décrété dimanche par le chef de l'État en l'absence de l'élection d'un parlement, est mis en place alors que les attaques visant l'armée et la police se multiplient, commises essentiellement par le groupe djihadiste Province du Sinaï, la branche égyptienne de l'organisation État islamique, l'EI. Change de pays complètement. Le Pentagone est en train d'évaluer à Washington les coûts d'un transfert de la prison de Guantanamo vers les prisons militaires de Fort Leavenworth au Kansas et de Charleston en Caroline du Sud, a-t-il indiqué lundi. Le Pentagone, donc, une équipe du ministère de la Défense, s'est rendue la semaine dernière à Fort Leavenworth, dans le centre des États-Unis, pour conduire des études de coûts très préliminaires, a indiqué le capitaine de vaisseau Jeff Davis, le porte-parole du Pentagone. Et puis, rapidement, un tour du globe. Bon, la Syrie, je vous en ai déjà parlé. L'ONU horrifiée par les attaques du régime sur ce marché. Mais on est aussi en Afrique du Sud, autour du globe, avec l'affaire Pistorius et le ministère qui voudrait une peine plus sévère. Le ministère public sud-africain va tenter d'obtenir une condamnation pour meurtre et une peine de prison sévère contre Oscar Pistorius, qui doit sortir de prison dès vendredi. 10 mois seulement après avoir été condamné pour l'homicide involontaire de sa petite amie Reeva Steenkamp. L'accusation a fait connaître son intention d'interjeter appel contre cette peine à la légèreté choquante hier. Et puis en Espagne, c'est une série noire dans des fêtes taurines. Vous savez, ces fêtes dans les rues de certaines villes espagnoles où le but du jeu, c'est de se faire poursuivre par des taureaux sans que ces taureaux vous encornent. Eh bien là, un jeune homme de 18 ans est mort près de Pamplune après avoir reçu un coup de corne à l'abdomen dimanche lors de ces fêtes taurines en Espagne. Le jeune homme blessé pendant les festivités du village de Lérine est décédé pendant son transfert à l'hôpital, a déclaré un responsable du gouvernement de cette région du nord de l'Espagne. Il s'agit du 4e décès de ce genre depuis vendredi et au moins du 7e depuis le début du mois de juillet. Je sais pas, à un moment donné, ils vont peut-être trouver d'autres façons de s'amuser. Je sais pas. Vous écoutez Canal M, c'est l'émission au quotidien qui se prolonge jusqu'à midi, bien sûr. Lorsque je vais revenir après cette très courte pause, nous allons dans le domaine culturel et j'ai aussi deux belles opinions à vous lire.
Au quotidien, avec Clotilde Seil. Thank you.
Alors, dans le milieu culturel, oh, ça brasse, puis il y a des gens qui ne sont pas contents, il y en a d'autres qui se défendent, comme par exemple les auditions de Mary Poppins, Serge Postigo contre-attaque. Alors, je n'ai pas la peine que je vous raconte ce qui s'est passé, parce que Marc-André Lemieux le fait très bien dans le Journal de Montréal. Lancées en grande pompe jeudi, les auditions ouvertes de Mary Poppins, la prochaine comédie musicale de Juste pour rire, font beaucoup jaser. Des membres de l'Union des artistes, l'UDA, décrit vertement la méthode de recrutement privilégiée par Serge Postigo qui acceptera les candidatures de comédiens amateurs. En entrevue au Journal de Montréal, le principal intéressé, qui mettra en scène cette relecture du classique de Disney, parle d'un manque de compréhension des opposants. Certes, les auditions de Mary Poppins sont ouvertes aux amateurs, mais elles n'en sont pas pour autant fermées aux professionnels et membres de l'UDA. Comme d'habitude, l'invitation a été lancée à tous les agents, précise-t-il. Serge Postigo affirme que ce type d'audition favorise un groupe souvent oublié des castings, les comédiens de formation n'étant pas représentés par une agence artistique. « Ça fait 25 ans que je fais ce métier », dit Serge Postigo. « Combien de fois ai-je entendu des collègues dire des trucs comme « Si tu n'as pas d'argent, t'es cuit ?» parce qu'on ne t'invite pas aux auditions. J'aurais pu faire comme d'habitude et distribuer les rôles à des gens qu'on connaît bien. Ça m'aurait pris une heure pour tout faire. Mais je veux voir du nouveau monde. Le travail que j'aurais pu faire en 60 minutes va s'étirer sur 3 semaines parce que je vais éplucher des centaines de CV. Serge Postigo, qui rejette également les accusations d'amateurisme lancées par Michel Tremblay. Sur Facebook, le dramaturge a vivement condamné les auditions de Mary Poppins. « La bullshit la plus puante que j'ai jamais vue de ma vie », a écrit M. Tremblay. Juste pour rire se lance dans des shows amateurs quand les acteurs crèvent de faim, honte. M. Postigo repousse cette attaque avec autant de vigueur. Je m'excuse, mais traite-t-on Jean-Claude Laure d'amateur pour avoir un jour, en 86, donné un premier rôle dans Lancer Compte à une mannequin de 16 ans qui n'avait jamais joué avant. Cette jeune inconnue, elle s'appelait Marina Orsini et c'est l'une de nos plus grandes actrices. L'actrice Amélie Grenier, qui a joué dans Louis Cyr, a également déploré le processus de sélection sur Facebook. Il n'y a pas assez de monde qui crève de faim dans le bottin de l'UDA, a-t-elle noté. Selon Serge Postigo, ses critiques auraient dû attendre avant de condamner son initiative. Avant de tenir de tels propos, ça aurait été bien que ces gens se renseignent un peu, indique le metteur en scène. Situation délicate, oui, parce que du côté de l'UDA, qui compte 8200 membres actifs, on qualifie la situation de très délicate. Je comprends la réaction des membres qui ne travaillent pas autant qu'ils le voudraient, déclare la présidente du regroupement, Sophie Préjean. Mais l'union permet à tout le monde de tenter sa chance. Il faut rester ouvert. Guillaume le métier vierge a commencé à 5 ans. Je pourrais en nommer plein d'autres qui sont entrés dans le métier comme ça, qui ont appris sur le tas. Les médecins ont une formation obligatoire. Pas les acteurs, poursuit Madame Préjean. C'est le métier le plus injuste du monde, mais quand on y adhère, on est conscient. Le journal a tenté de rejoindre Michel Tremblay et Amélie Grenier, mais les messages sont demeurés sans réponse. C'est un sujet intéressant. Ça. Moi, je vais vous dire, je suis à l'UDA. Puis quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que le... En tout cas, je sais pas... Bonjour Christiane, qu'en pensez-vous, vous, de cela? Est-ce que c'est pas bien ou est-ce que c'est bien qu'on ouvre ça à des amateurs?
Ben, j'avoue que je suis mal renseignée là, pour me prononcer. Il avait l'air de dire que c'était pour l'ouvrir à ceux qui n'ont peut-être pas des gros agents, tout ça,
non,
pour
c'est
qu'on
ça.
Change
qui n'ont
de
pas
visage.
D'agent, c'est ça.
Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus nuancé que ce qui a été peut-être décrié à froid au départ.
Moi, vous avez raison d'être nuancé comme ça. Moi, je voudrais juste peut-être préciser quelque chose, parce que je suis sûre qu'on va en reparler. Il va y avoir des chroniques, ça, c'est certain. De façon générale, ce sont toujours les mêmes qu'on voit. Prenez n'importe quel show sur scène. On va retrouver Benoît McGuinness, que j'adore, qui a un talent fou, on s'entend. On va retrouver des gens comme ça qui, tout d'un coup, c'est bon, la petite Claveau, qui les fait année après année. Puis il y a plein d'autres qui sont, encore une fois, excellents. Mais pourquoi peut-être ne pas trouver une Mary Poppins qu'on ne connaîtrait pas parmi les jeunes qui sortent des écoles ou pas, mais qui a peut-être une très belle voix, une très belle énergie. Puis, en tout cas, moi, je trouve que... Ils y vont un petit peu fort. Je trouve ça un Michel
C'est
Tremblay,
pas comme là. Si on avait organisé un Star Academy avec strictement des amateurs. Là,
non,
c'est
ça.
On avait fait un show de télé-réalité avec ça.
C'est ça. En tout cas, moi, on va suivre ça, c'est sûr, sur Canal M. Vous pouvez compter sur moi. Connaissez-vous Marvel? J'ai jamais entendu parler de ça. Marvel? On dit Marvel? Marvel Universe? Oui, pardon, attends. Universe Live. Des super-héros en chair et en os. Mais où étais-je? Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Ben, je connais la maison d'édition.
Ah!
Oups, j'étais pas allumée.
OK.
je connais la maison d'édition Marvel qui publie les bandes dessinées de super-héros, ouais. Donc ça doit être une branche.
Ah, OK. Oui, c'est vrai qu'en BD, je suis à peu près inculte. Alors, on nous dit, c'est Jean Siak dans la presse, qu'un an après leur première apparition à New York, les 25 super-héros et super-vilains de Marvel s'apprêtent à investir, OK, donc là, je comprends mieux, le Centre Bell pour 4 soirs. Avec ce spectacle familial où les vrais Spider-Man, Iron Man, Captain America, Red Skull et autres Loki multiplieront les cascades dans leur quête du cube cosmique. Apparemment, c'est la première fois que des personnages de Marvel apparaissent en vrai, mais c'est aussi la première fois qu'on réunit tous les personnages de Marvel, explique le directeur des opérations de Feld Entertainment, parce que, typiquement, le groupe des Avengers ne partage jamais l'écran avec Spider-Man. Alors là, on s'est donné la liberté de les réunir. C'est un spectacle à grand déploiement. Puis tiens, pour faire un petit peu écho à ce dont on parlait auparavant, eh bien, on a fait appel à des non-acteurs. Oui, donc on a fait appel à, et d'ailleurs on a demandé, est-ce que ça a été difficile de travailler avec ces gens-là? Et là, la réponse, non. On leur a appris à jouer, à se battre, à être synchro avec les voix. Ils les ont répétés pendant plusieurs mois, ça s'est très bien passé. Ils ont quand même côtoyé des acteurs et des danseuses et des danseurs professionnels. Et en fin de compte, ils sont très bons. Alors finalement, on peut très bien aller chercher. Je ne sais pas si aux États-Unis, ça a suscité le tollé dont on parlait là, avec l'affaire de Postigo et Mary Poppins. Mais bon, est-ce que c'est du Stevie Wonder? Ah oui, là, je reconnais la rythmique. Yes. On était tous là à danser. C'est vraiment immanquable. Stevie Wonder, qui vient jouer son chef-d'œuvre. Il sera de passage au Centre Bell le 30 septembre pour y jouer en entier son album Song in the Key of Life. C'est à Montréal que l'artiste américain amorcera ce dernier volet de cette tournée acclamée depuis ses débuts à New York en novembre 2014. Après 3 albums majeurs en autant d'années, Wonder faisait paraître. C'était en 1976. Oh boy, vous n'étiez même pas née, vous, là?
Oui, j'étais née.
Oh! Pas Mathieu. Moi, j'avais... l'un des meilleurs albums doubles de l'histoire, toutes catégories confondues, à la fois riche, diversifié et vibrant. Oh, écoutez, les billets pour ce premier concert montréalais de Stevie Wonder... depuis celui qu'il avait lancé au 30e festival de jazz sur la place des festivals, c'était en 2009. Alors ces billets-là pour le prochain, là, en septembre, seront mis en vente dès ce vendredi à midi. Est-ce que tu l'as enlevé ou... Ah, OK. Ah, tu l'as enlevé. Ah, c'est pas le bon. Ah, ça, c'est l'ordinateur. C'est pas ta faute. C'est la faute à l'ordinateur. C'est toujours la faute à l'ordinateur.
Thank you.
Et puis, vite fait, avant que je vous lise une ou deux opinions, figurez-vous qu'on est en train d'envisager à Paris de créer un hôtel au château de Versailles. Le château de Versailles, résidence des rois de France au XVIIe et XVIIIe siècle, bien sûr, veut transformer en hôtel un ensemble de trois bâtiments donnant sur le jardin de l'Orangerie. C'est ce qu'a indiqué la direction du site prisé des touristes du monde entier. La direction a lancé, voici 15 jours, un appel d'offres pour ce projet visant trois bâtiments inoccupés depuis 2008, qui représentent une superficie totale de 2800 mètres carrés. L'accès de l'hôtel sera extérieur au parc, mais une partie des chambres donnera sur l'Orangerie. Il n'y a pas de chiffres, mais j'ose imaginer une demi-seconde combien ça va coûter pour passer une nuit avec vue sur l'Orangerie. Que une fois qu'on dort, on voit plus. Mais enfin bon. Beaucoup, hein. Ouh là là, les nouvelles boîtes postales qui commencent à être installées un petit peu partout, à droite et à gauche. Et là, eh bien, figurez-vous qu'il y a une Montréalaise exaspérée qui a occupé l'espace destiné à une nouvelle boîte postale. Il faut dire que l'espace en question, c'était chez elle, quand même, il faut préciser. Louis-Samuel Perron écrit dans la presse. En fait, là, ça commence par une citation de la madame en question qui s'appelle Madame Claire-Marie Gagnon, qui ne mâche pas ses mots contre Poste Canada, qui est complètement exaspérée en disant « Ils sont d'un sans-gêne et d'un mépris pour les gens. C'est incroyable. » Donc, exaspérée, elle s'est assise samedi devant une boîte postale communautaire qui était en train d'être installée à un endroit qu'elle juge dangereux. Par ailleurs, des dizaines de milliers de Montréalais de l'ouest de l'île, de Montréal, voilà, devront s'y faire. Depuis hier, leur courrier n'est plus livré directement à leur porte. Alors, avant qu'elle en vienne à ce geste de désobéissance civile, les nerfs de Claire-Marie Gagnon avaient été mis à rude épreuve par cette affaire kafkaïenne. C'est une saga épouvantable. Une saga pendant 2 mois, a-t-elle dit. D'abord, il y a un an, des représentants de Poste Canada qui sont venus chez elle pour lui annoncer que des boîtes aux lettres seraient installées sur son terrain tout près de la rue. Au printemps, elles ont été placées à l'endroit prévu, mais les travaux n'ont pas été finalisés. Coup de théâtre au début de l'été, un nouveau trou est creusé une quinzaine de mètres plus loin, au coin des rues Ferncrest et Graham, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Claire-Marie Gagnon est estomaquée, j'ai appelé Poste Canada, je leur ai dit que ça n'était pas sécuritaire. Ils m'ont dit qu'ils allaient remplir le deuxième trou pour en faire un troisième sur mon terrain. C'est complètement fou, dit Madame Gagnon. Cette intersection est très fréquentée par les enfants qui attendent l'autobus scolaire. Hier, pendant qu'elle montrait la boîte postale à un caméraman, une voiture a failli les heurter en tournant le coin, a-t-elle dit. C'est la preuve. Samedi dernier, des sous-traitants de Poste Canada ont commencé à asphalter le deuxième trou pour préparer l'installation des boîtes postales. J'ai dit non. Je me suis assise dans le trou. Croyez-le ou non, ils ont continué à mettre le ciment sur mes chaussures. Je leur ai dit « Vous n'avez pas le droit de me toucher », raconte-t-elle encore ébranlée. Et elle raconte aussi que lorsqu'elle s'est assise dans ce trou-là, elle a pensé à qui ? Elle a pensé à Raif Badawi. « Lui ne peut pas s'asseoir dans le trou. Moi, j'ai le droit de parole et je vais l'utiliser », a-t-elle expliqué hier. Hier, Poste Canada, qui a promis de réparer les dégâts sur le terrain de Mme Gagnon et de déplacer les boîtes postales à un emplacement plus adéquat, centralisé et accessible pour les résidents, a indiqué à la presse la porte-parole de Poste Canada, Annick Lauzier. Or, les travaux perturbés par Mme Gagnon devront être finalisés, le temps de trouver un autre endroit. La société d'État entend aussi faire le suivi avec des sous-traitants concernant le comportement des travailleurs à l'endroit de Mme Gagnon, qui n'était pas acceptable, a-t-elle ajouté. Depuis hier, ce sont 88 000 foyers québécois qui ne reçoivent plus la visite du facteur et qui doivent se rendre aux boîtes postales communautaires pour récupérer leur courrier. Plus rapidement, vous savez, au sujet de la démolition annoncée de la maison Alcan, il y a Serge Joyal, sénateur, et qui s'était présenté d'ailleurs à la mairie en 1976 contre le maire Jean Drapeau, qui écrit ce matin une lettre qu'il adresse à Monsieur le maire. Il l'appelle aussi « Mon cher Denis ». Je m'autorise d'une amitié qui remonte à plus de 30 ans pour m'adresser au premier magistrat de la ville en utilisant aussi son prénom. C'est le projet annoncé de la démolition de la maison Alcan qui m'amène à partager avec vous les réflexions que cette décision m'inspire. Il dit à un moment donné à Denis Coderre, « Vous aimez toujours Paris. Vous y comptez comme amie sa mère, Madame Hidalgo. Parlez-lui de ce qui est arrivé avec la décision récente d'autoriser rue de Rivoli la destruction de l'ancien grand magasin La Samaritaine, racheté par le groupe LVMH de Bernard Arnault, pour construire un hôtel de luxe à plusieurs étages, tout à fait hors de proportion avec l'échelle des boutiques à arcade de la célèbre rue. Eh bien, on a décidé à la suite des pressions populaires de revoir le projet, de respecter l'intégrité globale du quartier, donc la Samaritaine ne sera pas détruite. » Cela étant dit, la Samaritaine, ce n'est pas sur la rue de Rivoli. Alors, en tout cas, dans mes souvenirs, la Samaritaine, c'est sur la rive gauche. Mais ça, j'en suis convaincu, ce n'est pas en tout sur la rue de Rivoli. Mais ça ne fait rien. On parlait quand même de la Samaritaine. Il dit à M. Coderre, « Il ne manque pas d'espace au sud pour construire vos fameux condominiums autour du boulevard Maisonneuve. Invitez surtout les promoteurs à sortir de la banalité architecturale du faux style californien pour donner au génie créatif l'occasion de se manifester et de nous redonner un peu de fierté. C'est pour ce genre de décision qu'on se souviendra de l'ère Coderre, comme d'une période intelligente et sensible à l'histoire et à l'évolution de Montréal, et non comme de celle où l'on aura vu les démolitions et l'empilage de la banalité cheap, qui nous renvoie à une image bien triste du petit Québec. Serait-on condamné à se renier un peu plus d'une génération à l'autre? Quand vous voulez, on sait que vous pouvez, en toute amitié. » Je vous laisse là-dessus, mes amis, parce que Christiane trépigne d'impatience à l'idée de vous faire la lecture du bulletin du handicap. Alors, je vous laisse à ses bons soins. Je remercie Mathieu Tessier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain à 10h. Salut.